Bonjour à tous, Gabrielle Caron au micro en compagnie de mon amie Evelyne Ferron.
Bonjour!
On est super heureuse de vous accueillir dans ce balado qu'on a décidé de partir vraiment pour le plaisir. Donc ça va être un heureux mélange de tranches de vie, d'anecdotes et d'histoires.
Bon, espérons un peu du moins.
Evelyne, c'est toi qui as choisi le sujet de cet épisode, un sujet que tu souhaites aborder depuis vraiment longtemps. De quoi on va parler?
On va parler de seins, de soutien-gorge et de corset, parce que, ben voilà, moi quand je fais de la radio avec des hommes, hein, beaucoup. Et c'est pas un sujet qui est très vendeur à la radio, de parler de sous-vêtements féminins, de parler des seins non plus, parce que les radios publiques sont un peu chatouilleuses sur certains sujets, donc il faut faire très attention quand on aborde ce sujet-là. Et ben voilà, je me suis dit, tiens, pour une fois que je vais faire un balado avec une autre fille, puis qu'on peut parler d'enjeux féminins. Je trouvais que ça peut être intéressant qu'on puisse en parler un peu, parce que voilà, j'ai pas cette opportunité-là si souvent que ça.
Ouais, puis là, on est sur Internet, fait qu'on peut faire ce qu'on veut, il y en a pas de règlement sur Internet.
Ils sont sur les photos, mais au moins, si on parle de seins de mamelon, on devrait pas avoir de censure par rapport à ça.
Mais moi, en fait, tu sais, tu parlais de brassières et tout, moi, j'ai vraiment une relation amour-haine avec les brassières. Tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, là, j'étais super mal à l'aise avec ma poitrine. Tu sais, j'étais pas capable de la laisser lousse. Jamais, là, même quand j'étais chez nous et que je voyais personne la journée, je restais quand même toujours avec une brassière. Puis après, je te dirais, là, début vingtaine, jeune adulte, je suis comme partie dans une quête de chercher le modèle qui me convient.
Ouais, le fameux modèle parfait. Qui n'existe pas vraiment.
Écoute, moi, j'ai tout essayé, là. Les brassières de sport, pas de bretelles, avec armature, pas d'armature, avec le bonnet mou, le bonnet moulé, le bonnet padé. J'ai tout essayé. En fait, j'aime dire que j'étais dans une quête identitaire de la brassière.
Moi, je ne peux pas aller si loin que ça. J'avais trop de seins pour pouvoir faire ça. Et à une certaine époque, quand moi, j'étais dans la vingtaine, les modèles étaient beaucoup plus limités. Ils venaient essentiellement de compagnies françaises et italiennes pour mon type de poitrine. Et donc, ça m'a toujours coûté une fortune. Moi, j'ai jamais pu aller, mettons, chez la Senza et me dire « Hey, je vais me payer une brassière cheap, mais mignonne. » Non, moi, il a toujours fallu que j'aille dans la dentelle française et italienne à des prix quand même assez impressionnants. Fait que, tu sais, j'en achetais des bons modèles qui duraient, bon, on va dire un an à peu près, parce que les élastiques, au fil du temps, ben, tu sais, ça lousse, là. Mais j'avais pas beaucoup de choix jusqu'à temps que certaines compagnies, depuis quelques années, et c'est pour ça que je voulais en parler, aient révolutionné ma vie alors que j'approche la quarantaine. Moi, je sens une libération du sein dans la lingerie qui était bienvenue. Moi, mes seins n'ont jamais été aussi libres que maintenant.
Mais tu vois, moi, mettons, là, quand j'étais justement dans ma quête identitaire, j'ai trouvé chez Sears, défunt Sears, un modèle que j'aimais, avec armature, avec le bonnet moulé, et là, j'en ai acheté comme 10 modèles identiques dans toutes les couleurs qui se peuvent. Puis là, j'étais partie pour la gloire pendant 5 ans. Je les alternais tout le temps. Puis c'est weird, parce que même si toutes mes brassières étaient pareilles, j'en avais quand même une préférée dans toutes mes brassières, okay, pareilles. Tu sais, il y en a comme toujours une que tu préfères. Puis que tu t'offres beaucoup trop longtemps, là. Tu sais, un moment donné, comme l'anneau, il sort en dessous du sein.
Ouais, non, là, ça rendu là, moi, c'est out.
Ah, moi, j'ai tough, là, je le rentre, il ressort, je le rentre. L'autre fois, il avait déjà brisé en deux, puis je continuais de la porter, mais je t'avoue que là, les seins n'étaient pas à la même hauteur, fait que je...
Non, là, pour moi, rendu là, c'est de la torture.
Ouais, non, je l'ai laissé aller après, quand même. Puis je te dirais, moi, c'est début trentaine où j'ai comme apprivoisé. En fait, c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est mes seins qui ont réclamé plus de liberté.
Dans la trentaine, avec les hormones et tout ça, les seins ont tendance, dans la journée, en fin de journée, à bouger un peu.
Ouais, ben, comme s'ils avaient leur propre vie, en fait.
Ouais, t'es bien strappé le matin, puis là, rendu en fin de journée, t'es comme, voyons!
Oui!
T'essaies de faire quelque chose avec ça. Moi, je ne vis plus ce phénomène-là. Non, mais moi, j'étais rendue au point où souvent, quand je revenais de ma journée de travail dans la voiture, j'en pouvais juste plus. Et je faisais ce mouvement de libération qui était de désnapper la brassière dans l'auto.
En conduisant?
Oui, ou des fois, un stop, tu claques. Le son, j'enlevais ça, puis j'étais comme... Oh, parce que vers la fin de la journée, dans la trentaine, j'avais remarqué que là, même si ça faisait bien le matin, le soir, ça marchait plus.
Tu vois, moi, c'est ça, j'ai l'impression qu'il a comme commencé à réclamer plus de liberté, puis j'ai tranquillement commencé à l'apprivoiser. En fait, je leur ai fait le plus beau cadeau qui soit. J'ai laissé tomber l'armature pour me diriger vers... Et là, Je déteste ce mot-là et je sais que toi aussi, tu détestes ce mot-là. Non, mais je me suis tournée vers la bralette, ouais, en fait, qui est le pire mot de la planète. On va se dire, moi, personnellement, quand je vais magasiner, j'aime mieux décrire pendant 15 minutes de façon semi-claire avec des mimes un peu louches ce que je cherche à la vendeuse plutôt que d'employer le mot bralette. C'est le pire mot.
Je peux-tu avoir une petite bralette dans la cabine d'essayage, j'avoue?
Ben, ça sonne pas cute, là. Ça sonne vraiment pas cute. En fait, une bralette, là, peut-être pour ceux qui connaissent pas ça ou qui savent pas que c'est ça le vrai mot, c'est une brassière molle. Je pense que c'est la meilleure façon.
Il y en a avec des agrafes dans le dos, mais de plus en plus, c'est le soutien élastique total. Ça veut dire que souvent, il y a pas non plus d'agrafes dans le dos, mais il y a pas aucune armature qui va mouler le sein. Des fois, tu peux en avoir avec des coussinets, avec ce qu'on appelle traditionnellement un pad ou sans pad, mais il n'y a effectivement aucune armature là, qui entre sous le sein. Donc, c'est vraiment la forme du soutien et l'élastique qui va donner, en fait, qui va soutenir le sein, mais tu sens pas justement l'espèce d'armature de métal ou quoi que ce soit en dessous. Et avant, ça, c'était pour les personnes à petite poitrine. Donc, ceux qui n'avaient pas beaucoup de sein, pas besoin de beaucoup de soutien, ça a toujours existé, en fait. Mais quand tu étais dans ma catégorie, oublie ça. Même s'il y en avait, ça tenait pas, ça soutenait pas. Et depuis quelques années, ben voilà, moi, dans ma vie, c'est le « Alléluia! » C'est la révolution.
Toi, t'en es où dans ta quête identitaire de brassière?
Je n'en porte plus. Écoute, ça va faire 3 ans. Je suis vraiment fière de te dire que ça fait 3 ans que je ne porte plus de gros soutien-gorge à armature de type Victoria's Secret ou mes compagnies françaises, Chanterelle et compagnie, qui, à la fin de la journée, même si c'était des bons modèles, j'en pouvais juste plus. Et voilà, moi, la révolution est arrivée avec Aerie. Je tiens à nommer la compagnie, OK? Je vais le faire. Même si maintenant, il y a Surfo Lingerie qui en fait. Puis les compagnies ont commencé à aller dans, justement, les fortes poitrines avec la bralette, mais c'était pas le cas il y a pas si longtemps. Et là, ben c'est ça, je commençais à voir passer sur les réseaux sociaux ces pubs-là qui disaient qu'il y avait du soutien pour les poitrines fortes, puis que c'était peut-être un petit peu plus... ben, c'est moins une torture, finalement. J'ai dit, OK, je vais l'essayer, j'y crois pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Mais j'étais rendue tellement désespérée que j'ai dit, bon, je vais l'essayer. Puis je suis allée dans la boutique, j'ai essayé plusieurs modèles, puis j'ai comme fait, ben, waouh, tu sais, je veux dire, je peux bouger, je peux courir, c'est comme le soutien d'une brassière de sport, mais vraiment aucune armature. J'ai quand même, mon Dieu, c'est comme un spa presque pour mes seins. Ils sont pas squeezés nulle part, ils sont pas serrés. Mais en même temps, je sens que dans le dos, je suis bien soutenue. Donc, tu sais, si je descends des escaliers ou quoi que ce soit, ça bouge pas trop.
Ça dépend de la vitesse à laquelle tu descends les escaliers.
Ça dépend de la taille de poitrine que tu as aussi, ce petit phénomène. Là, je t'entends rire, mais c'est ça. Quand t'en as beaucoup, c'est la chose à laquelle tu passes tout le temps, tu les essaies dans les escaliers, donc des cabines d'essayage, tu sautes. Parce que tu veux vérifier ce que ça va donner. Là, je fais « Hein, c'est pas si pire ». Donc, j'ai essayé mes premiers modèles, puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais juste pas capable, même pour aller travailler, de remettre mes anciens soutiens-gorge avec l'armature dans le dos, l'armature en dessous du sein, je voulais juste plus. Puis ils se sont mis à sortir de plus en plus dans les dernières années, plein de modèles, mais vraiment, vraiment beaucoup de modèles. Fait que j'en ai essayé plein, puis je veux dire, pour une fois dans ma vie, je peux avoir une grande variété, donc celle avec plus de soutien, des fois un peu plus légère pour quand je suis à la maison, des choses comme ça. Je peux les mettre à la laveuse, ce que je ne peux jamais faire. Tu sais, il y a toute la question de l'entretien aussi, du dit soutien-gorge. Là, j'ai fait « Wow, OK ». Là, j'ai comme une collection qui, dans les faits, me coûte le prix que m'aurait coûté un ou deux gros soutiens-gorge de chez Chanterelle et compagnie.
J'ai travaillé super longtemps dans un magasin de lingerie, le défunt Victoire de l'Âge.
Oh my God! Pour vrai, t'as travaillé chez Victoire de l'Âge!
Oui, 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 oui! Hey, écoute, absolument, là, j'ai travaillé là vraiment longtemps. Hey, j'aimais tellement ça, vendre des brassières puis tout le kit. C'était tellement féminin, c'était tellement un... Je veux pas dire un oasis, là, mais quasiment. Tu sais, parce que on était tellement libres dans cette boutique-là, on était vraiment toujours entre femmes. Une fois de temps en temps, il y avait un monsieur qui rentrait full mal à l'aise parce qu'il voulait un cadeau pour sa blonde, là. Mais, mis à part de ça, c'était ultra féminin. Puis, c'était tellement beau. Parce que, tu sais, souvent, il y a des femmes qui avaient besoin d'aide pour ajuster les soutiens-gorge, pour se faire mesurer et tout. Fait qu'il y avait comme une entraide, un sentiment de solidarité, là, quand tu travaillais là.
Mais tu vendais des instruments de torture, quand même!
Ben, je veux dire, j'étais quand même au salaire minimum, là. Fait que j'étais pas non plus la plus motivée de la gang, là. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on avait des clientes qui rentraient puis qui voulaient du Chanterelle ou du Le Jabi aussi qu'on avait, nous, on se garrochait pour avoir ces clientes-là parce qu'on était à commission, hein. Fait qu'on savait que la facture montrait très
j'ai
vite.
Eu des très très j'ai toujours eu du très bon service dans les corsetteries, comme on peut les appeler, parce que ben voilà, moi automatiquement, vu ma taille de poitrine, j'allais vers ces compagnies là donc automatiquement j'étais la cliente dorée, parce que si un modèle faisait vraiment bien, ben écoute, j'investis, j'en achetais deux ou trois là. Alors on parle de 300$ minimum là, si j'en achète trois, parce que ce sont des modèles qui étaient dans les 75$ et plus, qui sont aujourd'hui sont beaucoup plus chers que ça. Ouais, fait que pour le même prix, ben là, j'ai un tiroir complet de plein de variétés, en fait, de bralettes. Mais j'ai jamais... Mes seins n'ont jamais été aussi heureux depuis que ça... Puis tu sais, ils écoutent les commentaires des clientes de plus en plus, puis je veux dire, ils disent, mettons, pour forte poitrine, tu sais, si vous êtes dans tel genre de bonnet, on a resserré le soutien dans le dos parce qu'on avait plus de besoin, puis je trouve que ça s'est encore plus amélioré. Alors voilà, moi, je vis concrètement la petite révolution de la poitrine, où enfin, je me sens libre. Et je peux quand même faire de la télévision sans mettre un soutien-gorge, parce que j'ai des modèles plus soutenant de bralettes, mais tu sais, qui font très, très bien dans des petites robes ou des choses comme ça. Parce que, tu vois, quand tu as la brassière, même chanterelle ou autre, quand tu as une forte poitrine, on s'entend que la bande élastique aux épaules est très large. Donc là, quand tu mets une petite robe à bretelles spaghetti à l'écran, ça marche pas. Avec une forte poitrine, pas de bretelles, c'est pas l'idéal non plus. Fait que j'étais tout le temps comme un peu coincée. Mais là, maintenant, il y a des bralettes où le soutien est super bien fait dans le dos. On appelle ça un racer back, là. Ça, c'est vraiment bien. Ou sinon, ben, je peux quand même me permettre ces modèles-là avec des petites bretelles, ce que j'ai jamais pu porter de ma vie. Puis donc, je peux mettre ça en dessous d'une robe, n'importe quel modèle de robe. J'ai jamais été aussi heureuse, en fait.
Moi, je t'avoue que depuis le début de la pandémie, j'ai 100% abandonné le projet. 100%, ouais. Je porte plus de soutien-gorge. Des fois, là, quand je sors de la maison, tu sais, quand je vais jouer dehors avec les enfants, je vais mettre une petite bralette. Je pense qu'à chaque fois que je vais dire ce mot-là, je vais prendre une pause pour que tout le monde ait le temps d'apprécier à quel point j'haïs ce mot-là. Mais pour vrai, 80% de mon temps, je suis lousse et libre et heureuse et assumée. Mais pour plonger un peu plus là, dans le vif du sujet, d'où ça vient le mot brassière et soutien-gorge? C'est quoi le rapport avec les seins?
Ben, soutien-gorge, c'est français. Hein? Faut dire que même le mot corset, le corset à l'origine, les corsetteries, je veux dire, c'est beaucoup la France, la mode française à partir du 16e siècle, beaucoup développé, en fait, les sous-vêtements pour justement ajuster le corps de la femme aux robes et aux différents modèles de robes qui évoluaient. Mais quand on parle de soutien-gorge, c'est qu'en France, on disait d'ailleurs de Marie-Antoinette qu'elle avait une magnifique gorge. Ben, on parle vraiment justement là, de cette zone entre le j'appelle ça le collarbone, mais donc
la clavicule,
le dessous des épaules. Donc, en fait, essentiellement, cette partie-là et la poitrine, c'est ce qu'on appelait, qu'on peut appeler encore aujourd'hui la gorge. Et donc, si tu penses souvent au portrait de Marie-Antoinette, elle a la poitrine souvent très remontée, on le voit au-dessus de la dentelle de ses vêtements. Donc, on disait, elle a une très belle gorge. Donc, le soutien-gorge, c'est un mot qu'on va commencer à utiliser quand on va délaisser le corset pour justement juste venir soutenir la poitrine plutôt que de venir modifier aussi la taille et tout ce qui venait en fait avec la poitrine. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'au Québec, on va développer davantage le mot « brassière ». Pourquoi? C'est que là, on va commencer à passer nos bras à travers en fait les trous pour soutenir la poitrine. C'est vraiment pour passer ses bras une brassière, c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'en anglais, on va utiliser ce mot-là aussi « bra ». En fait, même si en anglais, ça fait aucun sens, en fait. Alors, c'est vraiment l'idée que plutôt que d'avoir le corset qui te soutient par la taille, en fait, c'est l'armature qui te soutient par les épaules, donc tu passes tes bras à travers. Donc ça, c'est des modèles. On va commencer à voir l'utilisation de ces mots-là beaucoup plus au tournant du 20e siècle, quand le corset va commencer à perdre de l'importance et qu'on va commencer à développer des modèles des soutiens qui sont un petit peu plus légers, moins complexes aussi, quand la mode féminine va changer. Mais il faut que tu saches aussi que... un tournant là-dedans, ça a été après la Première Guerre mondiale ou même pendant la Première Guerre mondiale, parce que les corsets, bon oui, pendant longtemps on parlait d'eau de baleine et tout ça, mais les agrafes et tout ça, à un moment donné, c'est devenu en métal, entre autres en fer. Et là, quand t'es en période de guerre et que t'as besoin de métal, à un moment donné, en fait, il y a eu des demandes gouvernementales en disant arrêtez de produire des corsets, de porter des corsets, et ils vont récupérer toutes les petits œillets, les armatures de métal pour pouvoir en fait les retourner ça dans les usines. Donc c'est des tonnes et des tonnes.
C'est fou, là!
Qui a pu être récupéré? repérer quand on arrive à la Première Guerre mondiale et après, là, de juste des corsets. Et c'est un peu comme ça, vraiment, qu'on va développer des modèles de soutien pour la poitrine qui ne prennent pas toute la taille, mais qui vont venir soutenir surtout le sein. Et c'est comme ça qu'on va commencer à créer des modèles qui vont passer plus par les épaules, par le dos, par les bras. Et c'est ce qui fait que, communément, au Québec, au Canada, on a davantage gardé le mot brassière, alors que soutien-gorge est plus français.
Dans le fond, le corset a été présent comme jusqu'au début du 19e siècle, puis j'imagine...
Oh, 20e! Oh oui, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ouais.
Mais après la Première Guerre mondiale, j'imagine qu'ils ont pas fait, genre, ben là, on n'a plus besoin, donc vous pouvez recommencer à faire des corsets. Les femmes ont dû faire, on retourne pas là-dedans.
Il y en a qui en portaient. Écoute, anecdote personnelle, ma grand-mère en portait un jusqu'à sa mort, parce qu'elle a trouvé que, après avoir eu beaucoup d'enfants, ben ça soutenait aussi, c'était comme un effet gainant. C'est sûr que c'était pas des corsets avec des os, quoi que ce soit, c'était en tissu, mais ça permettait de venir resserrer un peu le ventre comme une gaine quand elle sortait, puis qu'elle voulait être jolie pour aller jouer au bridge, puis aux différents jeux de cartes dont elle était une championne. Et là, je parle d'une dame qui est décédée il y a une quinzaine d'années, donc jusqu'à la fin, ma grand-mère portait encore. Ça existait encore. En fait, ça existe encore pour quelqu'un qui en veut en tissu pour modeler. La gaine remplace un peu ça d'une certaine façon. Il y a différents modèles de gaine. Donc, c'est sûr que c'est pas disparu d'un coup sec, mais c'est sûr que les vêtements, la mode féminine, pense à Coco Chanel et tout ça, va aider à se libérer du corset. Ce corset était pensé surtout parce que on cherchait un type de silhouette pour des modèles de robes bien précis. C'est ce qui fait que les corsets ont beaucoup changé au fil du temps aussi, parce qu'ils vont être faits en fonction de la forme de taille qu'on veut donner. C'est pas tant la forme de la poitrine d'ailleurs, c'est plus la forme de la taille et des fesses. Donc l'effet que la robe va donner sur... Qu'on appelle la courbe S. Poitrine ressortie vers l'avant, fesses ressorties vers l'arrière et le dos qui creuse. Naturellement, ça ne se fait pas. Donc les corsets et ce qu'on appelle souvent j'appelle ça un ballon en arrière. Donc, il fallait s'attacher un petit ballon sur les fesses, sur les hanches pour donner cet effet faux cul de la robe. Ça, on va voir ça à l'époque victorienne, entre autres.
Mais ça devait pas être confortable, mais mon Dieu que c'était beau, par exemple. T'sais... Pour vrai, c'est
ben voilà.
Très beau.
Et au nom de la beauté, même encore aujourd'hui, écoute, on en fait des choses. Je lisais un article, je pense, dans la presse, mais qui disait, tu sais, là, est-ce que c'est la fin des talons hauts, vu qu'on est toujours à la maison en période de pandémie, on n'en porte plus? Est-ce qu'on va justement arrêter cette torture-là, même si ça représente quelque chose? Je veux dire, on porte encore plein de choses comme ça, qui, au nom de l'effet que ça donne sur le corps, on va le choisir, même si c'est pas confortable. Moi, je cours pas en talons hauts, là.
Mais non, mon Dieu, moi, je marche même pas en talons hauts. Les talons hauts seront le sujet d'un autre épisode.
Ce que je veux dire, c'est qu'on joue dans la même optique. T'sais. On va essayer, des fois, on va porter des choses qui sont plus ou moins confortables parce que l'effet visuel est magnifique. Donc, ça a été ça.
Mais en même temps, je veux dire, les canons de beauté, les standards de beauté ont vraiment évolué avec le temps. Là. Je veux dire, ce qui est beau aujourd'hui n'est pas considéré beau il y a 200 ans et ne sera pas considéré beau dans 200 ans. Comment ça a évolué, tout ça?
Le sein, tu veux dire?
Oui, la forme des
seins.
Ou
la mode?
Non, pas la mode. La mode en général, Evelyne.
Là, on en aurait pour longtemps. Ben, les seins, c'est que ça dépend comment ça a été perçu. C'est un peu toujours la même chose avec l'histoire, c'est qu'on a une vision qui est très européano-centriste, hein, et très occidentale de tout ça, parce que pour les mêmes époques, si, bon, je pense à quand arrive le corset et les robes là, qui vont venir justement là, modeler la forme du corps des femmes, on va dire aussi des femmes bien nanties. Parce que c'est sûr que si t'étais paysanne, t'avais plutôt le corselet que vous allez voir dans Outlander, des choses comme ça, qu'on voit à l'extérieur, qui se met par-dessus la robe pour venir justement serrer la poitrine pour être capable de travailler pendant la journée. Le corselet, lui, était relativement confortable.
Puis j'imagine aussi que ça doit venir du fait que t'as pas de servante pour t'aider à l'attacher dans le dos.
Non, c'est ça. Tu l'attaches sur le devant, tu le lasses, et ça fait en sorte que tu peux travailler. Puis je veux dire, tes seins sont quand même pas tout le temps en train de faire leur vie, puis d'être une entrave au travail.
Eh oui, en plus, j'avais entendu, et là, je sais pas si c'est vrai, là, mais j'avais entendu qu'il y a certains maris qui avaient découvert les infidélités de leurs femmes à cause du corset, parce que le matin pouvait les aider à l'attacher d'une certaine façon, et le soir reviennent, aident leur femme à se déshabiller et font « Oh mon Dieu, mais ce n'est pas attaché comme je l'ai fait ce matin! Oh, » oh!
Ça se peut très bien, mais ça prenait des maris qui étaient vraiment très attentifs à toute la séance d'habillage féminin, ce qui était assez rare. tard, je te dirais, parce que c'était long. Mais c'était long pour les hommes aussi. Hein. On oublie que les hommes, à ces époques-là, tu sais, entre les années 1600 jusqu'au tournant du 20e siècle, tout ce qu'il faut mettre autour du cou pour que ce soit joli, avec la chemise, avec... Bon, il y avait quand même pas mal de morceaux aussi, quand même, dans l'habillement. Encore une fois, de l'élite. C'est ça, la différence. Donc, même l'habillement du sein, c'est un peu ça, le corset complexe pour donner un look à une robe, ça va être quand même l'élite qui va les porter. Et donc, la paysanne, elle n'en a pas besoin et ça l'empêcherait de travailler royalement. Et donc, elle va plutôt porter le corselet qui est relativement plus confortable aussi, qui se voit, donc qui est par-dessus la robe souvent, qui est lacé, qui va donner comme un meilleur effet. Mais c'est ça, dans l'ensemble, c'est sûr que ces sous-vêtements-là ont toujours été pensés en fonction aussi de la vision qu'on avait de la poitrine féminine. Donc, c'est sûr que quand tu t'en vas en Afrique, où le sein n'est pas très érotisé dans beaucoup de pays, je veux dire, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas quand il fait chaud et tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait choqué en 1896. National Geographic avait pour la première fois mis en une un couple de Zoulous qui venait de se marier, un couple princier, en fait, d'Afrique du Sud. Et la femme avait la poitrine complètement dénudée et assez basse aussi parce que elle n'a jamais porté de soutien et ça avait créé dans les milieux puritains une réaction en disant « Mais que c'est ça, vous mettez ça en une, c'est de la pornographie. » Ça a amené un débat sur ce qu'est la pornographie aussi. Est-ce que le sein est pornographique? Donc, tu vois, là où on va soit le mettre en évidence à l'époque de Marie-Antoinette quand on est rendu au 18e siècle, où souvent pour les femmes nobles, on voit vraiment la rondeur sur le dessus de la robe. C'est très en évidence. Si tu t'en vas du côté de l'Inde, le sari, ben c'est pas le sein nécessairement qui est mis en évidence parce qu'il y a un voilage qui passe par-dessus. C'est le ventre qui est mis en évidence, c'est lui qui est dégagé. Donc, ça dépend ce qu'on érotise, ça dépend ce qu'on trouve beau sur le corps féminin, mais donc notre vision d'ailleurs des seins et des soutiens des seins est très occidentale. On oublie qu'ailleurs, justement, le sein libre a été à l'honneur depuis très très longtemps.
Ben oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde là qui était coincé dans... Mais en même temps, j'imagine le clash, tu sais, quand justement, il y a deux cultures qui se rencontrent, tu sais, d'un côté, comme tu disais, là, que les puritains ont trouvé ça super pornographique.
Ça réagit très, très fort.
De l'autre côté, les Zoulous, eux, devaient regarder les femmes en faisant, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous imposez tout ça?
Oui, ben, c'est aussi que le sein était vu pour nourrir les enfants, donc il y avait pas le côté aussi érotique, c'est le bas du corps, en fait, souvent, qui est plus érotique. Donc, c'est ça, tu sais, c'est toutes des perceptions très différentes de la poitrine féminine qui vont faire en sorte que les vêtements aussi qui vont l'habiller vont changer. Ou l'absence du dit vêtement pour... Ben, tu sais, quand tu regardes les saris encore aujourd'hui ou les kurtas, si tu t'en vas du côté, ben c'est ça, de l'Inde, du Népal, bon, les pays d'Asie du Sud-Est, etc., il y a quand même une espèce de camisole soutenante, là, tu sais, qui quand même cadre et soutient, mais c'est pas l'armature que nous, on va s'imposer pour donner une forme aussi au sein. Parce que le soutien-gorge, le corset aussi, mais le soutien-gorge qui a permis de faire quand il est arrivé, qu'il va remplacer graduellement le corset, c'est surtout qu'il va modeler la forme du sein. Là, lorsqu'on va arriver avec Dior, la fameuse ligne A, ben là, on va commencer à vouloir avoir le petit sein virginal qui pointe. Donc, le petit sein pointu. Et bonjour, les soutiens-gorge en cône. Madonna n'a rien inventé avec Jean-Paul Gaultier. Là.
Mais comment un sein pointu peut être perçu comme virginal? Comment? C'est quoi l'association qui s'est faite?
Ben, c'est le sein qui n'est pas rempli de lait. Tu sais, il y a quand même beaucoup de connotations là-dedans. Mais ça, c'était surtout, pour Dior, une question de look, la fameuse ligne A. Mais c'est l'idée que le sein, il ne tombe pas. Il pointe vers la vie, vers le ciel, quand il est jeune et en santé, tu sais.
Hey, je pense que j'ai jamais eu des seins pointus, là. À part peut-être comme, tu sais, quand t'as comme 11 ans puis t'as juste les petits seins qui commencent, là. Mais ça dure 2 semaines, puis après ça, c'est fini, là.
Mais ces soutiens-gorges-là, je veux dire, faut regarder les catalogues des années 50 pour les voir, puis tu dis, bon, ben c'est ça, quand Madonna est arrivée avec ça, elle a rien, Jean-Paul Gaultier avait rien inventé, il a juste repris quelque chose qui était caché sous les blouses, était caché sous les robes, mais je veux dire, les images de la mère de famille parfaite aux États-Unis, là, dans les années 50, qui sert le repas, puis qui doit toujours être bien mise quand l'homme revient du travail, c'est vraiment ça qu'on remarque, là, je veux dire, c'est le sein pointu, donc le soutien-gorge, l'armature a toujours servi à essayer de donner une forme voulue par l'industrie de la mode, mais voulue, on pourrait dire aussi des fois par quelques hommes au travers aussi. Regarde la série Mad Men, tu vas voir un peu ça à travers. Bon.
C'est là qu'on voit si les séries télé sont bien informées ou non. Si les soutiens-gorge sont bien faits selon l'époque.
Ben, c'est pas trop dur à suivre d'ailleurs comme mode. C'est sûr que là, c'est beaucoup plus diversifié maintenant, mais je veux dire, il y a quand même eu encore, on est dans cette période-là, il y a une grosse réflexion à savoir est-ce qu'on a le droit justement de se promener sans soutien-gorge parce que ça dérange, parce qu'on peut voir un peu le mamelon qui pointe à travers les vêtements, parce que le soutien-gorge sert à cacher ça aussi. Alors que les bralettes cachent pas nécessairement ça tant que ça. Mais ça choque des fois, encore aujourd'hui, des fois, de voir que le mamelon est apparent si la dame a froid ou quelque chose comme ça. Là. Il faut dire que ça sert aussi à cacher un peu ça. Fait que la forme conique, c'est sûr que tu ne vois pas le mamelon, mais ça donnait l'espèce de ligne A, comme on appelle. Il faut vraiment penser à la lettre A, la lettre majuscule, qui va dominer un petit peu cette espèce d'idéal de la femme de ménage parfaite, surtout du côté des États-Unis. Puis ça va avoir quand même un impact de notre côté aussi dans ce qu'on va acheter. Là. Pourquoi on nous force à porter des soutiens-gorge quand on commence à peine à avoir des seins, alors qu'on s'entend que quand on est jeune, on n'a pas une j'avais pas la paire que j'ai là quand j'ai commencé à m'avoir là. Mais je veux dire, aussitôt que la forme est apparue, ça n'a pas été long. Ma mère était chez Sears, elle m'achetait des petits tops Elita pour être sûre qu'au moins on ne voit pas à travers mes vêtements là, le petit mamelon ressorti parce qu'il ne fallait pas. Là. Fait que je veux dire, très très tôt aussi, on est un peu conditionné à voir ça comme étant négatif. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'aussitôt qu'on commence à avoir des seins, bien là, il faut les cacher aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a une mentalité qui vient avec ça. Comme je te dis, si tu vas... je pense même à l'Égypte ancienne, je peux retourner dans le passé, les gens sont toujours surpris de voir les danseuses les seins dénudés dans un pays qui était très chaud et tout ça. Encore une fois, avec le type de robe qu'elles portaient et tout ça, ça n'existait pas vraiment. Là, tu sais, l'idée d'encercler la poitrine, on la laissait libre. Il n'y avait pas vraiment de problème par rapport à ça. Mais c'est ça, la génération de ma mère, peut-être pas toute, mais moi, je sais que ma mère, quand j'ai commencé des fois à porter des bralettes, elle me regardait en me disant « T'as pas de brassière, toi? » Hein? Je suis comme, oh, attends une minute, là, oui, mais j'ai juste plus les gros bonnets épais, j'ai juste plus de liberté. Je le soutiens, maman, mais j'ai décidé de donner un peu de liberté à ma poitrine, mais elle était un peu offusquée. Puis je veux dire, je me rappelle, j'avais fait une émission de télé, puis elle disait, ouais, ça bouge un peu, pis ça! Donc, attention, toi! Ta génération qui est peut-être plus habituée et qui entend ce discours-là peut-être un peu plus et plus ouverte, mais c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui vont voir une autre femme circuler avec les seins sur les hautes, si tu me permets cette expression.
Oui, absolument, je te permets tout ça.
Là, on fait de la socio, puis tu sais, je veux dire, attention, je suis pas sociologue et je ne veux pas recevoir une horde de courriels de quel droit parlez-vous de ça, là. Mais je veux dire, c'est ça. Toi, tu es peut-être plus ouverte, mais il y a beaucoup de femmes qui peuvent réagir en disant pas sûr.
J'encourage tout le monde à l'essayer au moins une journée. Au moins une journée. Pour vrai, c'est agréable.
Mais c'est ça, tu sais, il y a aussi des questions de génération, tu sais, si t'as été conditionné depuis l'enfance à voir le sein libre comme étant quelque chose qui est pas convenable dans une bonne société, admettons, ben c'est sûr que tu réagis présentement quand tu vois cette forme de libération-là, des poitrines même dans la lingerie et tout. Alors que encore une fois, voyage, va ailleurs, puis t'as pas le même la relation à la poitrine et comment on habille la poitrine n'est pas la même du tout. Ça a été dicté au fil du temps. Puis tu sais, c'est un peu comme l'idée du corset, tu sais qu'il faut serrer là, mais au point où ça étouffe là. Je veux dire, ça c'est une forme de mythe d'ailleurs qu'on a fini par créer pour entre autres à la télévision et ailleurs pour montrer que les femmes étaient soumises et oppressées parce que là on tire le corset, là, tu sais, on s'accroche après quelque oui. chose, après un poteau, puis on a mais tu sais, je veux dire, l'évolution du corset, juste ça a été très variable. Puis souvent, en fait, les corsets servaient, oui, à placer les vêtements, mais il n'y avait pas une nécessité de serrer ça au point d'étouffer. C'est beaucoup l'époque victorienne et édouardienne qui a amené ce style-là. Mais si tu penses à l'époque, justement, de Jane Austen, pour tous ceux qui aiment les Pride and Prejudice de ce monde, tu sais, c'est des robes qui sont très...
Ah oui, c'est vrai que c'est pas tant cintré.
Non, c'est des tailles en pire! Donc, c'est sûr que le corset n'a pas cette nécessité nécessité d'être très serré pour porter des robes comme ça. Il est là pour soutenir parce qu'il n'y a pas encore justement le soutien-gorge, donc il est là quand même pour placer le corps en dessous, mais tu n'as pas cette nécessité là, de serrer le corset pour avoir une mini-taille. Je veux dire, c'est sûr qu'à l'époque victorienne, j'ai Sissi en tête, là, il y avait chez certaines personnes de l'élite une obsession à la taille très, très mince pour faire ressortir les seins sur le haut et le derrière aussi à l'arrière, mais ça venait aussi, ça a été beaucoup influencé, ces modes-là, par la tuberculose, étonnamment.
Ben voyons,
Il y a eu des liens avec la tuberculose, mais c'était une maladie qu'on comprenait encore mal, mais qui circulait beaucoup. Les gens qui en souffraient, ben souvent avaient le teint un petit peu plus pâle, donc tu sais, l'idée d'avoir les joues un peu pâles, pas au soleil, l'idée d'être très mince, ça va amener comme un effet psychologique où ça va influencer en fait une vision de la mode, où on va vouloir en fait avoir, parce que les gens qui étaient malades mangeaient très peu, puis là, ben les femmes plus en charge disaient, ouais, tu sais, ça paraît bien dans les vêtements, tu sais, d'être un petit peu plus...
Mon Dieu, fait qu'ils voulaient avoir la tuberculose pour maigrir.
Non, mais ça a offert une vision de la minceur dans la mode aussi. Fait que même dans l'histoire du corset, l'épaisseur de la taille, puis comment on va travailler le corset pour amincir la taille, ça a beaucoup changé au fil du temps. Puis là, je dis ça très vite, hein, on s'entend.
Oui. Oui, c'est plus profond que ça, là. Ça s'est pas fait en 2 semaines.
Que les historiens de la mode ne m'envoient pas de tomates, là, tu sais, on jase. Tous des courants comme ça qui ont quand même influencé comment on travaillait la taille et travailler le sein aussi, là. Tout ça pour dire que toujours cette idée du corset super serré, c'est pas tout le monde qui portait ça comme ça, puis c'est pas tout le monde qui s'astreignait nécessairement à l'avoir aussi serré. Puis un des exemples qui est quand même assez intéressant, c'est quand tu regardes la collection de vêtements de la reine Victoria, justement, qui au fil du temps a pris de plus en plus de poids vers la fin de sa vie, et elle était quand même costaude, la reine Victoria.
C'est très poli pour la royauté, j'aime ça.
Oui, mais tu sais, je veux dire, t'as l'évolution de ses corsets aussi, fait que même si elle en avait un pour soutenir, pour pouvoir mettre les robes, elle avait pas la taille de guêpe à la Sissi, là. Je veux dire, c'était impossible, là. Je veux dire, il y a personne qui aurait accepté de se faire... De toute façon, il y a une limite physique.
Ben, puis de toute façon, t'as bien beau serrer, ça doit ressortir par en haut, là. Tu sais, à un moment donné, ça disparaît pas. Il faut quand même que ça bouge, cette peau et ce gras, là.
Celle qui portait les corsets les plus serrés, attention, ce n'est vraiment pas tout le monde. C'est souvent les dames de l'élite et d'une certaine époque. C'est surtout le 19e siècle qui était le pire, là, dans le corset par rapport à ça. Surtout, comme je disais, l'époque victorienne édouardienne. C'est sûr qu'il y a des études qui ont démontré que ça jouait sur le positionnement des organes à l'intérieur du torse, là. Mais attention, encore une fois, c'est pas l'ensemble de la population qui était comme ça. L'ouvrière, tu sais, je veux dire, ou la femme qui vivait en campagne puis qui travaillait au champ, ne s'astreignait pas à ce genre de torture comme on pourrait l'avoir. Mais on dirait que souvent, quand ça apparaît dans les journaux, tu sais, regardez comment ça déplaçait les organes et comment ça changeait l'intérieur du corps de la femme, automatiquement, on se dit, tout le monde était de même à l'époque victorienne. Faut vraiment quand même nuancer ça, là.
Faut pas généraliser.
Non, c'est ça, la poitrine, le diaphragme et les organes libres existaient dans la campagne, entre autres, anglaise.
Ça cohabitait paisiblement, c'est ça, là.
Puis il faut dire, c'est ça, qu'il y a eu beaucoup de corsets qui étaient en tissu aussi, qui n'avaient pas nécessairement toutes les armatures avec les os de baleine. Là, donc, il y a eu une grande variété aussi de types de corsets. Là. Donc, c'est pas toujours cette idée là, qu'il faut serrer ça au point où...
Ouais, on respire plus. J'ai une dernière question. Je sais même pas si tu as la réponse. Là. C'est vraiment pas une question piège. Est-ce qu'il y a une personne qui peut se targuer d'être le créateur du corset et le créateur du soutien-gorge, de la brassière? Est-ce qu'il y a comme un nom qui est associé?
Pas directement. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être des historiens de la mode qui vont dire, ben, telle personne exactement. Tu sais, je veux dire, de mémoire, non, parce que quand on parle du corset, comme je te disais, bon, on commence à le voir apparaître autour des années 1600 à peu près en France, mais on n'a pas nécessairement un modiste ou une modiste qui a son nom sur l'arrivée de ces premières armatures-là, parce que c'est sûr qu'il y avait une mode d'époque, puis les gens qui travaillaient dans ce domaine-là, ben, essayaient justement de faire les plus beaux modèles de robes, puis disaient, ah, ben, pour que la robe tombe mieux, on pourrait faire ça comme ça. Donc, il peut y avoir existé même plusieurs pré-modèles de corsets dont on n'a peut-être même pas de traces, en fait, historiquement parlant. Parce que c'est pas des morceaux de vêtements qui survivent bien au temps, nécessairement. Il en reste, mais on n'en a pas nécessairement toujours des si grandes collections que ça.
Mais je veux dire, moi, si mes brassières t'offrent 3 mois, j'ose même pas imaginer un corset qui date de 1850.
Non, puis comme je te dis, bon, rendu au 20e siècle, on va même les envoyer pour redonner les rivets et tous les morceaux de fer quand on va être rendu à la Première Guerre mondiale. Fait que, tu sais, il y a plein de corsets qui existent quand même plus de ces anciens modèles-là. Même chose pour le soutien-gorge. On sait que le terme soutien-gorge va peut-être arriver, bon, fin 18e siècle. Donc, on est encore à l'époque du corset, mais avec cette idée que certains modèles vont soutenir davantage la poitrine, justement pour faire à la Marie-Antoinette, là, la faire remonter. Moi, personnellement, j'ai pas de nom, mais je ne suis pas une historienne de la mode, il faut le dire, parce que là, ou du costume, l'espèce de soutien-gorge conique, on peut vraiment arriver à l'époque de Christian Dior, là. T'sais, on peut vraiment arriver après la Deuxième Guerre mondiale, où on va arriver avec une silhouette qui est vraiment pensée du point de vue de la mode. Coco Chanel va jouer un petit peu là-dessus aussi. Là, c'est plus facile, en fait, à suivre à partir de cette époque-là, qui a amené tel modèle, et donc les compagnies, ben, vont essayer de faire des soutiens-gorge en fonction des styles de silhouette qu'on veut dans les vêtements. Donc, ça marche un petit peu comme ça. Mais c'est ça que ça amène. Par contre, tu vois, après la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait eu des pin-ups avant, puis qu'on avait commencé à montrer le sein, il va quand même avoir une plus grande acceptation peut-être du sein, ou même de la nudité du sein avec le cinéma et tout ça. Il va quand même y avoir un peu d'acceptation, mais parce qu'il faut dire que quand à l'époque victorienne, justement, les gens se serraient un petit peu, ou à la Belle Époque, dans des corsets, il y avait parallèlement le début quand même de la photographie. Et quand la photographie arrive, ben, très vite, en fait, la nudité va arriver en photographie comme elle existait dans le portrait. On dirait que dans les portraits peints, ça passait un peu mieux, mais en photo, le côté réaliste, ça dérangeait. Donc, en France, on faisait des cartes postales érotiques que les Britanniques qui visitaient la France de la Belle Époque, le Paris de la Belle Époque, avec les grandes horizontales et tout ça, ramenaient en cachette les petites cartes postales d'une dame. Tu sais, puis juger érotique, c'est quoi? C'est qu'il y a un bout de poitrine de montrer, puis souvent, on voit la personne en jarretière, tu sais, je veux dire.
Ouais, ouais, c'est assez mollo, là.
Dans nos standards, c'est pas très érotique, mais il y a quand même un tournant à la fin du 19e siècle, quand tu penses aussi à Mata Hari, à Colette, qui vont commencer à faire justement les premiers striptease sur scène, qui vont attirer énormément de monde. Ça avait amorcé quand même, je dirais, une légère démocratisation de la poitrine. Donc, le fait qu'on pouvait la dénuder puis en faire soit un spectacle, ou que c'était quand même pas quelque chose de dégoûtant de voir une poitrine dénudée, nécessairement. Parce qu'avant ça, même dans l'art, le nu dans l'art est arrivé quand même, bon, il y en avait en cachette, mais je veux dire, accepté dans les écoles des beaux-arts, c'est assez tardif. Sinon, la seule fois que tu voyais un sein dénudé, c'était la Madone à l'enfant. La Vierge à l'enfant, depuis le Moyen-Âge, tu la vois avec le sein dénudé qui va allaiter l'enfant Jésus, c'était à peu près la seule scène où le saint pouvait être, d'un point de vue acceptable, dénudé là, pendant longtemps, là, parce que c'était une scène religieuse, puis que l'allaitement dans ce contexte-là n'était pas accepté. Vu comme quelque chose.
Et s'ils revenaient aujourd'hui, ils fendraient en deux, là, ils sont pas prêts pour Pornhub, là, t'sais.
Non, vraiment pas! Mais c'est ça, tu sais, il y a comme une évolution, tu sais, autant dans le sous-vêtement pour le sein, ça suit quand même un peu aussi l'érotisation qu'on en a quand je parle du 18e siècle, puis que là, vraiment, tu sais, ça ressort en haut de la robe, c'est que, surtout pour les jeunes femmes, quand la gorge, elle est belle, ben c'est quelque chose qu'on aime, tu sais, on trouve ça beau, c'est féminin. Tu sais, il y a vraiment aussi, ça dépend des standards, justement, qu'on va avoir de beauté par rapport à tout ça. Alors que, pour les mêmes époques, si on s'en va en Afrique, si on s'en va dans les Antilles, la poitrine n'a pas nécessairement cet intérêt-là, mais si on monte une cheville avec la jupe un peu relevée, bien placée, ben ça va être peut-être un petit peu plus...
Osé! Ah ouais! Mais tu vois, j'ai l'impression que là, on vient d'ouvrir plein de portes, justement, sur le striptease, sur la nudité, sur la pornographie, sur ce qui est osé, ce qui l'est pas. Fait que j'ai pris des notes, on se garde ça pour des prochains épisodes. Là, on va terminer là-dessus. Evelyne, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Tout le monde qui nous a écoutés, merci énormément et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on discute, sentez-vous bien à l'aise de venir nous les écrire. Merci. Donc, Facebook, Instagram, Evelyne Ferron, Gabrielle Caron, c'est nos vrais noms. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée!